Dans la carrière proche de la fontaine de Jouvence, il y a des petits papiers déposés sous des tas de pierres.
Mon frère, il m'embête tout le temps. Ce serait bien si tu l'obligerais à ne plus le faire.
Merlin, est-ce que tu veux bien t'occuper de mon chien ? Tinou, il est tout le temps malade.
J'aimerais bien que mon papa y revienne habiter avec nous.
Ma mère a pas voulu m'acheter une épée de chevalier au magasin de bambou. Est-ce que je pourrais avoir la même à Noël ?
Merlin, faites que ma grand-mère, elle arrête d'être vieille.
Brocéliande, derrière la légende. Une série écrite et réalisée par les ateliers du cinéma de l'Hermine à Plélan. Aujourd'hui, les trois pierres du tombeau de Merlin.
Septembre 1889. Un homme en redingote noire se tient assis sur un talus. Une planche à dessin posée sur ses cuisses, il esquisse un croquis, il griffonne quelques notes. Son nom, Félix Bellamy. Félix Bellamy va bientôt publier un livre dont le titre complet sera « La forêt de Bréchélian, la fontaine de Béranton, quelques lieux alentours, les principaux personnages qui s'y rapportent ». Face à lui, l'allée couverte du tombeau de Merlin. Un amoncellement de pierres masquées de temps à autre par Armand Tréquion et par son cheval Barbiche. L'homme et l'animal sillonnent un champ dont la superficie mesure à peine un journal, celle qu'un attelage parvient à labourer en une journée.
Ça bien deux bonnes heures qu'il a le cul posé sur mon talus, celui-là. Mais qu'est-ce qu'il peut bien être en train de traficoter avec ses mains toutes blanches? Des mains qui ont pas dû souvent agripper le manche d'une fourche.
Ah, oh, bon Dieu! Ah! Hercule! Hercule! Allez, Hercule! Hein? Oh, oh là, Barbiche! Vas-tu t'arrêter? Encore un de ces maudits cailloux. Tu t'en fiches, toi. C'est pour toi qui paieras le forgeron pour dégaucher mon soc.
De toute façon, ce champ ne vaut rien. Si Blandine n'avait pas apporté les landelles avec sa dot, il y a belle lurette que j'aurais cessé de me briser les os avec ce lopin de terre gagné sur la lande. La terre y est si mec qu'on y récolte à peine la semence qu'on y enfouit.
Alors, monsieur, du bon temps pour charruer.
Ça soit du temps sec ou de la pluie, faut bien que le travail se fasse. Et puis si l'orage s'en vient, je vais quand même pas vous demander d'ôter votre redingote et me donner un coup de main. Pas vrai?
Certes, non. J'ai moi aussi un travail à achever. Et je ne suis pas sûr de l'avoir fini avant que la nuit tombe.
Ah, c'est un travail ce que vous êtes en train de faire? C'est drôle, mais mon beau-père m'a raconté, alors qu'il était enfant, un antiquaire de Montfort s'est posté plusieurs fois sur ce talus. Précisément là où vous vous tenez. Vous êtes peut-être de sa famille. Qu'est-ce que vous lui trouvez tous si intéressant à ce tas de cailloux?
Dites-moi, mon brave, les six pierres droites avec la septième un peu penchée, vous les avez toujours vues comme ça?
Oh, pour moi, rien n'a bougé. Mais ça fait qu'une vingtaine d'années que je cultive la parcelle. Bon, c'est pas le tout. La jument commence à se refroidir. On va s'y remettre. Au revoir, monsieur.
Félix Bellamy. Et vous?
Armand Tréquion. Notre ferme est plus bas, à une lieue d'ici, au hameau de Trévray. Allez, hue, barbiche!
Finalement, je m'en vais aussi. Peut-être à une autre fois.
As-tu avancé, mon dieu de sacré froussarde? Tu en penses qu'il n'y a rien qui remue? De quoi que t'as peur? C'est rien que des cailloux alignés, pareil que des trognons de choux. Allez, hu! Oh, bon, bah, arcu! Demain, je m'en vais te mettre les œillères. Va bien falloir que ça passe.
Alors, mon homme, as-tu fini de labourer la parcelle là-haut sur les landelles?
Non. J'en ai encore pour un coup d'heure. J'irai demain après la traite.
T'as corbuté sur le rocher. T'as pas abîmé la charrue quand même.
Puisque je te dis que j'y retourne demain.
Armand attrape le pain enveloppé dans un torchon. Étirant sa jambe droite, il sort un couteau de la poche de son pantalon de velours côtelé. Un couteau qui ne le quitte jamais. Il coupe une tranche dans la boule de pain, tend la main vers un bout de lard et le tient fermement avec le pouce sur la tartine taillée en biseau. Silencieux, il s'abîme dans la contemplation de la flamme dont le reflet fait se mouvoir l'ombre des meubles de la pièce unique. Le grand lit, le vaisselier, la mets, l'armoire à linge et dans un coin de la pièce, le lit de sa mère.
Alors la mère, qu'est-ce que vous nous mijotez de bon?
Oh mon petit gars, la même chose que la semaine dernière. Hein. Un morceau de lard, des carottes, du chou. Je prends de l'avance pour demain. Le petit salé, c'est bien meilleur quand c'est réchauffé.
Il me semble que je vais pouvoir tenir le coup jusque-là.
Demain, on ira à la messe toutes les deux. Le dimanche, on n'a pas vraiment le temps de préparer à manger. Viendras-tu avec nous pour une fois?
Mais laissez-le donc tranquille, belle maman. Vous savez bien qu'Armand, il n'a pas mis les pieds à l'église depuis notre mariage. Et puis, le labour de la parcelle de Landel, il ne va pas se faire avec l'opération du Saint-Esprit.
Jésus-Marie-Joseph, il finira comme son père, celui-ci. Le curé refusera de l'inhumer au cimetière. Heureusement, je serai morte avant.
Le cheval a encore biaisé pour éviter de labourer trop près des pierres levées. Dès qu'on arrive à côté, il commence par relever ses oreilles. Que j'essaie la douceur, que je donne du fouet, il renacle. Il piétine jusqu'à ce que je finisse par lui céder. Avec mes pieds, j'ai frappé la terre autour des pierres levées. Et ben ça sonne le creux. Boum, boum. Comme s'il y avait un vide en dessous. D'après moi, c'est ça qui fait peur à la jument.
Mais si elle veut pas y aller, qu'est-ce que tu peux y faire? Et puis, Va pas te prendre un coup de sabot comme le Fernand, qui à présent va rester boiteux jusqu'à la fin de ses jours.
Les bêtes, c'est souvent plus malin qu'on ne le pense. Ça sent des choses que nous autres, on peut même pas se douter. Il y en a qui disent que les pierres levées de notre champ, c'est plus que des cailloux. Ce serait un tombeau, le tombeau d'un guérisseur. Des guérisseurs dans le pays, il y en a toujours eu, hein. Mais celui-là, Merlin qui s'appelait, il était très fort. À ce qu'on raconte, il vous remettait tellement les gens d'aplomb que sa cour ne désemplissait jamais. Des malades qui n'étaient pas bien riches. Pourtant, chacun avait à cœur de lui donner un petit quelque chose. À force, il a fini par amasser une fortune. Et en mourant, comme il n'avait pas de descendance, il aurait enterré ses sous dans un coin des Landelles. Barbiche, si elle a peur, cette bête, c'est sans doute qu'elle a flairé quelque chose de pas ordinaire. Il y a longtemps que je dis que vous feriez bien d'y aller voir, au lieu de me traiter comme une vieille qui a pas toute sa tête.
Mais taisez-vous donc, la mère. Passe encore que vous racontiez ces histoires de bonnes femmes à la veillée. Mais c'est sûrement en colportant ce genre de baliverne qu'on va faire bouillir la marmite.
Vous, ma bru, c'est pas à vous que je m'adressais. Je parlais à mon fils.
À cette heure, je vais pas mettre une bûche dans le foyer. Je crois qu'il est grand temps d'aller se coucher.
Tandis qu'une lueur rougeâtre couve sous les cendres de la cheminée, Armand se retourne sur sa couche, s'éveille à demi et songe à M. Bellamy, l'observant depuis son talus.
Il a passé quand même une bonne partie de l'après-midi à rien faire d'autre que de regarder du côté des pierres levées. Qu'est-ce qu'ils ont à fouiner dans le coin tous ces beaux messieurs, avec leurs airs de pas y toucher? Lui, il a bien tenté de me tirer les vers du nez. En voilà une question. Qu'est-ce que ça peut bien changer que les pierres aient bougé ou non? Après tout, elle a sans doute raison, la mère. Peut-être que lui aussi, il est à la recherche d'un magot. Demain, quand les femmes seront à la messe, il faut que j'y retourne et que j'en ai le cœur net.
Le lendemain à l'aube, au pied du tombeau de Merlin. Septembre 1889. Armand Tréquion a fait sauter les 7 pierres dressées qui constituaient les restes d'une ancienne allée couverte à l'aide d'explosifs au nitrate d'ammonium. De dépit, comme nul trésor n'a affleuré, il dynamite le parement de la fontaine de Jouvence, située à 200 mètres de là, sans plus de résultat. 3 août 1965. des randonneurs découvrent trois panneaux de schiste pourpré gisant à l'entrée d'un champ. Ils les redressent au pied d'un maigre houx. Entre 1988 et 1991, le Conseil régional de Bretagne et la Communauté économique européenne lancent une politique de développement de la Bretagne centrale. La forêt de Brocéliande est retenue par le Comité régional de tourisme pour être le cadre d'un développement touristique reposant sur le mythe arthurien. De 1989 à 1992, le tombeau de Merlin est alors aménagé pour répondre à une fréquentation touristique en forte hausse.
C'était « Les trois pierres du tombeau de Merlin », une fiction écrite et réalisée dans le cadre des ateliers de l'Hermine, appelés Lan le Grand, avec les voix de Thierry Monneret, Armand Trecchion, Maïté Salgue, Blandine Trecchion, Daniel Volo, Félix Bellamy, Marie Guillaume, Léonie Trecchion, Loïc Fraboulet, le narrateur, et les enfants Mathilde Buant, Océane Leray-Léonard. Scénario, réalisation, montage, musique, Joël Guillaume. Documentation, encyclopédie de Brocéliande et paroles d'habitants de Saint-Malon-sur-Mel.